Alain Perret, le président de la commission médicale d'établissement, chef du service des urgences du centre hospitalier de Narbonne, est l'invité de Grand Sud FM pour faire le point sur la situation au centre hospitalier de Narbonne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est la situation aux urgences dédiées au Covid-19?
Écoutez, on note une légère diminution de l'activité hein, sur le plan du Covid, avec un nombre de passages qui a diminué de 20-30% depuis la semaine dernière. Donc on est plutôt sur une évolution qui est favorable, je dirais, hein, même s'il y a encore des cas, s'il y a encore quelques cas graves, hein, il y a eu quelques admissions en réanimation malgré tout cette semaine. Mais en tout cas, on a nettement diminué en intensité par rapport à la semaine dernière et surtout par rapport au week-end d'il y a une quinzaine de jours hein, à peu près. Qu'on est sur une situation un petit peu d'attente, hein, parce que évidemment personne n'a de boule de cristal pour savoir comment ça va évoluer, hein, si ça peut repartir à la hausse ou si on continue dans une évolution qui est favorable. Donc on attend avec une petite anxiété le week-end de Pâques, hein, les week-ends prolongés c'est toujours un peu compliqué dans les services d'urgence. Mais voilà, donc on est quand même sur quelque chose qui laisse place à de l'espoir, parce que l'épidémie semble s'atténuer, en tout cas dans notre région. Quoi. Voilà.
Combien de personnes avez-vous en réanimation liée au Covid-19 au centre hospitalier de Narbonne, hein ?
Actuellement, on en a 7. L'état des patients s'est amélioré, hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des patients qui étaient sous respirateur, qui étaient sous sédation, hein, en coma artificiel avec un respirateur. Grâce au travail des réanimateurs et de toute l'équipe de réanimation, il y a maintenant plus de la moitié des patients qui étaient en réanimation sous respirateur ont été réveillés et ont été extubés, hein, c'est le terme médical qui dit qu'on a supprimé la ventilation artificielle. Donc c'est quand même très porteur d'espoir et surtout c'est assez formidable pour les patients qui sont passés à travers cette épreuve de réanimation, hein, parce que on est sur des durées de réanimation qui sont longues hein, par rapport à des pathologies habituelles, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, hein, qui est la manifestation la plus dramatique du coronavirus, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres maladies, hein, sur certaines pneumonies, voilà. Et en général, un SDRA, ça se traite en 5 à 7 jours de réanimation.
D'accord.
Pour le coronavirus, on a des SDRA qui sont beaucoup plus difficiles, hein, avec de gros problèmes de prise en charge technique. Hein, et les durées d'intubation sont plutôt de l'ordre de 12 à 14 jours, ce qui est quasiment le double d'un syndrome de détresse respiratoire habituel. Hein. Donc il y a 3 personnes qui ont passé 14 jours intubées dans un coma artificiel et qui sont sorties de ce coma et qui ont été mis sur respiration spontanée, c'est-à-dire qui ont retrouvé une respiration non mécanique. C'est quand même des choses qui sont d'excellentes nouvelles parce que au départ, on a vu ailleurs et partout en France que les gens qui étaient admis en réanimation avaient un pronostic vital assez sombre hein, et chaque personne qu'on arrive à arracher de la réanimation, c'est une formidable victoire.
Du côté des guérisons, vous en êtes où ?
Depuis le début de l'épidémie, il y a 55 personnes qui sont sorties de l'hôpital de Narbonne après avoir été hospitalisées. Hein. Mmh. Alors des patients qui n'ont pas nécessité de réanimation, mais qui ont nécessité une mise sous oxygène, enfin et des traitements mis en place. Et on a plutôt des chiffres qui sont porteurs d'espoir.
La semaine dernière, vous m'aviez dit que le pic avait été estimé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, jusqu'au 8 avril. Il est passé ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que voilà, il y a eu beaucoup de prospectives qui ont été faites sur l'épidémie du Covid. Il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites, hein, y compris par moi. Donc on a toujours du mal à prévoir l'avenir. Hein, c'est compliqué. Effectivement, les courbes qu'on a, on a des études statistiques assez précises. Hein, on a plusieurs médecins qui font des stats sur l'hôpital avec le nombre de passages, le nombre d'hospites, le nombre de réanimations, etc., etc. On est effectivement sur une courbe qui est plutôt descendante. Donc on peut considérer, avec toutes les précautions d'usage, que le pic sur Narbonne serait passé. Quoi. Mais on est quand même sur une activité qui n'est pas nulle. Hein. C'est encore des gens qui arrivent avec des syndromes des Covid avérés, hein, testés et éprouvés. Donc on n'est pas complètement derrière la crise. On peut penser qu'on a évité le gros pic tel qu'on l'a vu de manière assez dramatique dans d'autres régions de France. Je pense qu'on bénéficie à plein des effets du confinement et il faut militer et répéter que le confinement, c'est la seule manière qu'on a de sortir de cette crise.
Docteur, quels sont les signes au début d'une infection par le coronavirus ?
Le terme a été un peu galvaudé, mais on reste sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un syndrome grippal. Hein. Il y a de la fièvre, il y a de la toux, il y a une hygiène respiratoire. Encore une fois, 90% des patients qui auront eu le Covid ou qui ont été confrontés au Covid n'auront pas nécessité ni d'hospitalisation ni de traitement spécifique. Hein. Ça reste une maladie qui pose des problèmes de complications à la marge, hein, c'est-à-dire entre 5 et 1%, ce qui est déjà colossal. Hein, mais voilà, il y a 95% des gens, 90-95% suivant les populations et les études, qui vont passer au travers. Et, enfin, en tout cas, qui vont avoir une pathologie grippale, j'allais dire, standard. Après, la problématique, c'est les 5% et bien évidemment le 1% de létalité. On raisonne en termes de santé publique, hein, c'est-à-dire que voilà, si vous avez 1000 personnes qui sont touchées, les stats prouvent qu'il y aura 10 décès et il y aura 50 personnes en réanimation. Voilà.
Après la perte de goût et d'odorat, les troubles digestifs ou encore la conjonctivite, de nouveaux symptômes comme des plaques et des boutons très rouges sur les extrémités des orteils ou des mains ont pu être constatés. Vous confirmez ?
Oui, alors c'est assez rare. On n'en a pas vu beaucoup, hein, très franchement.
À Narbonne, vous en avez vu ?
On n'en a pas vu beaucoup. C'est effectivement décrit. Après, c'est assez typique des infections virales. Hein. Vous savez, quand on a une infection virale... Alors il y en a des extrêmement banales, hein, comme les gastroentérites qu'on retrouve tous les ans. Quand un virus attaque l'organisme, il peut avoir, même s'il a ce qu'on appelle un tropisme, hein, c'est-à-dire des virus qui sont plutôt respiratoires, d'autres qui sont plutôt digestifs, donc qui sont plutôt neurologiques. Chaque virus a son terrain de prédilection, mais tous les virus peuvent donner des pathologies en dehors de leur terrain de prédilection, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, même sur des virus respiratoires, comme le coronavirus, vous pouvez avoir des symptômes digestifs. Plutôt chez les sujets âgés, hein, c'est plutôt les sujets âgés qui ont des syndromes digestifs, mais il peut y avoir effectivement des petits syndromes neurologiques avec des confusions, il peut y avoir des syndromes cutanés avec des plaques, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut être aussi anxiogène parce que du coup, tout peut ressembler à un coronavirus vu de loin, donc ça demande un petit peu plus d'expertise, un petit peu plus d'attention pour justement pas passer à côté d'un coronavirus sur des symptomatologies qui sont assez banales.
Autre sujet que je souhaitais évoquer avec vous, c'est les masques. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Ça s'est amélioré, hein, sur l'hôpital. On a eu quand même quelques livraisons. Même si on n'en a pas autant qu'on voudrait et qu'on ne peut pas autant le généraliser, enfin en tout cas le changer aussi souvent qu'on voudrait, mais clairement la situation s'est quand même améliorée. Il y a une petite amélioration par rapport au début. On était quand même très anxieux de se retrouver en pénurie complète. Par contre, oui, on n'est pas non plus dans une situation qui nous permettrait de les changer aussi souvent que les recommandations le nécessitent, quoi.
On va dire que c'est à minima.
Oui, c'est à minima, on était à un masque par jour, maintenant on est à deux. Idéalement, il faut changer un masque tous les 4 à 6 heures, hein. Donc on manque encore un petit peu de marge pour être complètement à l'aise avec le stock de masques.
Pour finir, est-ce que vous êtes favorable au port du masque pour l'ensemble de la population ?
Je suis pas convaincu à 100% de ça, hein. La problématique du masque, c'est que ça peut faussement protéger. C'est-à-dire que l'essentiel de la transmission est quand même manoporté, hein. C'est les mains qui transmettent le virus. Alors ça, il est dans l'air, hein, incontestablement, à des durées qui sont mal déterminées, on va dire. Ça dépend un peu des études qu'on lit. Le danger du masque, c'est que on peut se croire faussement protégé, déjà parce qu'il y a beaucoup de masques qui sont pas protecteurs, hein, beaucoup de masques en tissu notamment. Et surtout, il faut surtout pas que ça évite les mesures barrières, hein, le lavage des mains, la distanciation sociale, etc. Parce qu'à partir du moment où vous touchez votre masque, si vous l'avez sur les mains, vous contaminez votre masque. Et voilà, donc on s'aperçoit que même à l'intérieur d'un hôpital, les personnels qui sont habitués à travailler dans un environnement stérile, les chirurgiens, les réanimateurs, etc., se touchent très peu le visage, en fait. Les gens qui n'ont pas l'habitude gardent les habitudes de toucher du visage, etc. Donc le risque, c'est de contaminer son masque, en fait, hein. Le masque protège peu la personne qui le porte. Alors après, la question se pose, c'est effectivement, quand on porte un masque, on protège les autres, hein, parce que les postillons, les éternuements, etc., restent dans le masque. Mais c'est plutôt, le masque est plutôt quelque chose qui protège les autres, qui vous protège vous. Et ensuite, parce que psychiquement, ça peut donner, cette impression de protection peut diminuer cette distanciation sociale qui est absolument nécessaire. Et le fait de se laver les mains extrêmement régulièrement, parce que le virus est essentiellement transmis par les mains, quoi.
Merci Alain Perret de nous avoir éclairé une nouvelle fois sur ce Covid-19 et d'avoir fait le point avec nous sur la situation au centre hospitalier de Narbonne. Je rappelle aux auditeurs de Grand Sud FM que vous êtes le président de la commission médicale d'établissement et chef du service des urgences à Narbonne.
Merci à vous, bonne journée.